Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Rendez-vous d'après clôture pour vous aider à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Et ce soir, nous sommes avec Timothée Publier. Bonsoir Timothée.
Bonsoir.
Je rappelle que tu es responsable de la gestion obligataire internationale chez la financière de la Cité. Et ce soir, débrief un peu particulier parce qu'on va parler d'histoire un peu de la finance, d'histoire un peu de la bourse. On va vous raconter une histoire, enfin plus précisément, Timothée va vous raconter une histoire que vous ne connaissez peut-être pas et pourtant, elle est passionnante. Et on va parler aujourd'hui d'un jour historique. Un jour d'octobre 2008 où Volkswagen est devenue l'entreprise la plus chère au monde, boursièrement parlant, la plus grosse capitalisation boursière mondiale. L'histoire d'un jour, Timothée, si c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé parce que c'est quand même assez dingue.
Alors en effet, c'est une histoire qui est vraiment incroyable. Il faut un concours de circonstances incroyables pour que quelque chose comme ça puisse arriver. Il y a des rivalités de familles historiques allemandes qui possédaient Porsche et Volkswagen. Il y a de l'ingénierie financière, il y a de l'abus, du grid, etc. Donc c'est vraiment une histoire incroyable. Donc pendant un jour, Volkswagen a été la société la plus chère du monde et de loin. Et pour que ça ait pu se faire, il faut comprendre déjà la différence entre une action, normalement, ça donne un titre de propriété et des droits de vote. Donc on a le droit aux dividendes et on a le droit de voter sur les décisions de l'entreprise. Et après avoir fait un peu d'ingénierie financière, on a fait des actions qu'on appelle pref. Et ces actions-là, elles ne donnent pas le droit de vote, mais par contre, on a le droit à tous les dividendes. Donc normalement, le prix des actions avec droit de vote et sans droit de vote doit être à peu près le même. Et il y a même des hedge funds qu'on appelle event-driven, qui... C'est leur métier de repérer des différences entre les actions avec droit de vote ou sans droit de vote, ou entre les obligations et les actions d'une même entreprise, de trouver des différences et d'être long sur une et de vendre l'autre. Donc maintenant qu'on a compris l'existence de ces actions avec et sans droit de vote, on revient dans les années 2000 où Porsche s'est dit on va acheter Volkswagen. Donc assez doucement, ils ont pris 5% de Volkswagen, puis ils sont montés. Ils ont fini par atteindre 35% en le disant au marché. Nous, on a 35%.
Ce qui est déjà énorme.
Ce qui est déjà énorme. Ouais. Mais après, ils n'ont plus rien dit. Ils se sont mis en silence radio. Sauf que ce que le marché ne savait pas, c'est que de façon très discrète, ils continuaient d'acheter des actions Volkswagen pour prendre le contrôle du groupe. Et donc, pour prendre le contrôle d'un groupe, il faut des actions avec droit de vote.
Donc Porsche n'achetait que celle-là alors.
Ils n'achetaient que celle-là. Ouais. Donc, on a commencé à avoir une différence qui s'est construite entre les actions avec droit de vote que Porsche achetait, toutes celles qui passaient, ils les achetaient, et celles sans droit de vote qui ne les intéressaient pas. Donc, les hedge funds voient qu'il y a une différence entre les actions avec droit de vote qui s'envolent et sans droit de vote, et ils se disent, nous, on va shorter celle avec droit de vote qui va finir par revenir.
Et donc, shorter, juste pour vulgariser un peu, pour ceux qui
c'est vendre à découvert. Voilà. Donc, on emprunte l'action. On l'a pas et on la vend sur le marché. Et ensuite, il faudra la rembourser plus tard. Et c'est assez important pour la suite de l'histoire. Donc, ils ont fini par faire ça de plus en plus. Et plus l'écart, plus ça s'écartait, parce que Porsche continuait d'acheter de plus en plus, plus ils shortaient. Donc, on s'est retrouvé avec des shorts énormes. On avait 12% du flottant en short. Ça représente 10 milliards d'euros. Et les hedge funds ne comprenaient pas, leur position était perdante.
Oui, puisqu'ils ne savaient pas ce que faisait Porsche derrière, en fait.
Ils ne savaient pas ce que faisait Porsche.
Ils disaient, bon, nous, on va faire un coup. Et puis finalement...
Et ça, c'est un peu, c'est un peu de la triche. Ils ont utilisé une subtilité du marché. C'est que normalement, quand on atteint un certain montant, il faut le dire au reste du marché. Mais eux, ils utilisaient des options. Donc c'est là où on se dit, c'est des voitures, ils font des voitures, mais ils faisaient de l'ingénierie financière très poussée. Donc ils utilisaient des options. Et une option... On attache à une option une maturité. Donc, on a l'option d'acheter l'action ou non, c'est nous qui choisissons, à une date donnée. Et du coup, avant que la date donnée soit arrivée, on n'a pas les actions. Donc, en fait, Porsche pouvait dire « Non, nous, on n'a pas les actions. »
Donc, en fait, ils bloquaient les actions sans les avoir. Donc, c'est-à-dire que personne d'autre pouvait les acheter.
Ils avaient le droit de l'acheter à un prix déterminé. C'était pour eux, à ce prix-là. Le prix était déterminé à l'avance. Donc, en vrai, c'est comme s'ils les avaient, sauf qu'elles n'étaient pas encore livrées. Et du coup, ils pouvaient le cacher au reste du marché.
Et comme ça, c'était pas illégal officiellement.
C'est ça, mais aujourd'hui, en fait, c'est dingue. Donc, ils avaient une cinquantaine de pourcents. Ouais. La Saxony et possède historiquement 20% de Volkswagen.
Ouais.
Il y avait même une loi allemande qui interdisait de prendre contrôle d'un groupe si on n'avait pas au moins 80%, ce qui était impossible parce que la Saxonie avait 20,1% de Volkswagen. Et du coup, il restait plus que 6% des actions en flottant pour le reste du marché. Donc il y avait 12% des actionnaires qui étaient short, et alors qu'il ne restait plus que 6%. Et pour déboucler un short, je rappelle que c'est une action qu'on a empruntée et qu'on a vendue. Donc pour fermer ça, il faut acheter l'action et la rendre à la personne à qui on l'a empruntée. Sauf que là, c'était impossible puisqu'il n'y avait pas assez d'actions à aller chercher. Donc là, il s'est passé ce qu'on appelle un short squeeze. Ça veut dire que tous ceux qui sont short se précipitent sur le marché et sont prêts à payer n'importe quel prix. Donc là, on arrive à des...
Pour racheter, en fait.
Pour racheter. Ouais. On arrive à des situations aberrantes. C'est ce qui s'est passé à un moment sur le pétrole où on était à moins 42 dollars le baril de pétrole. Parce que des gens avaient des contrats à terme comme ça. On avait des capacités de stockage qui étaient complètement saturées. Même les super tankers, on les utilisait, mais pour stocker. On ne voulait même plus déplacer le pétrole. C'était vraiment... Plus personne ne voulait avoir du pétrole. On ne savait pas où le poser. Et du coup, ceux qui avaient les contrats à terme qui arrivaient à maturité, ça veut dire que si on n'arrive pas à vendre ce contrat, eh bien on vous donne le pétrole, il faut le réceptionner chez vous. Donc les gens étaient prêts à vendre ces contrats à n'importe quel prix. Et du coup, il y a des gens qui ont acheté du pétrole à moins 42 dollars. On leur a donné de l'argent pour recevoir du pétrole. Et là, donc, là il s'est passé le même phénomène. Donc on n'est pas sur des prix qui sont devenus négatifs ou quoi, mais c'est le contraire. En fait, les gens étaient prêts à acheter à n'importe quel prix. Donc en l'espace de quelques jours, l'action Volkswagen qui valait dans les 300 euros est passée à plus de 1000 euros, à 1005 euros pour être précis. Donc ça s'est fait à une vitesse qui est absolument incroyable, c'était vraiment d'une violence dingue. Et on se dit normalement quand un groupe monte comme ça, je sais pas, comme le Bitcoin par exemple, tant mieux pour ceux qui en ont et il n'y a pas trop de conséquences pour les autres. Mais là il y avait 12% du marché qui était short. Donc eux, pendant que c'est monté, que ça avait fait du x3 et en plus c'est pas des positions qu'ils ont gardées, eux ils étaient là pour vendre. Donc les derniers tics qu'on a vus à 1005, ouais. C'est eux qui ont racheté pour se débarrasser de leur position short. Donc ils se sont fait massacrer en l'espace de quelques jours.
Oui, parce que c'est contre-intuitif. On peut se dire, comme tu dis, oui, non, mais en fait c'est bien pour eux. Et en fait non, parce que si on comprend bien, eux, pour pouvoir vendre, il faut qu'ils rachètent d'abord. Donc en fait ils se sont mis à racheter 3 ou 4 fois plus cher que ce qu'ils auraient dû.
C'est ça. Donc ouais. on a eu des pertes de plus de 20 milliards. C'est... Pour tous les acteurs du marché, c'était du jamais vu.
Mais comment ça s'est terminé ça ? Donc, pendant un jour, ça a été vraiment l'entreprise la plus chère du monde en bourse.
La plus chère du monde. Et ce qui a tout déclenché, c'est Porsche qui a... En fait, le prix... Donc à un moment, les actions sans droit de vote valaient 20% des actions avec droit de vote. Donc c'est une aberration totale. Si on prend l'exemple des dividendes, par exemple, on reçoit le même dividende sur les deux actions. Donc il y en a un, si c'est une action à 100 euros, il y en a un qui la paye 20, l'autre qui la paye 100. Et à la fin, on a les mêmes dividendes. Donc sur des gros montants, ça peut faire des sommes hallucinantes. Donc c'est une opportunité qui est dingue et normalement tout le monde devrait se jeter sur les actions sans droit de vote. Et c'est ça qui s'est passé. Donc à un moment, Porsche s'est rendu compte que ça devenait catastrophique parce que l'écart c'était du jamais vu, l'écart était trop important. Ils disaient peut-être qu'on va nous reprocher d'avoir caché des choses au marché. Donc ils sont arrivés, ils ont dit bon, excusez-nous, c'est nous qui sommes en train d'acheter toutes les actions à droit de vote. Et on a presque 50% des actions de Volkswagen à droit de vote. Donc là, tout le monde a compris en même temps ce qui s'est passé. Ils ont dit combien ils en avaient, donc on a pu voir aussi ce qui était disponible sur le marché. Et là, ça a été un mouvement de panique incroyable. Après, dans les jours qui ont suivi, Porsche a dit... Donc eux, leur but, c'était d'acheter. Donc ils n'avaient pas du tout envie de vendre leur position. Ils ont quand même dû en vendre en se disant on va remettre 5% des actions qu'on a pour que les shorts puissent souffler un peu. Donc là, ça a donné...
Un peu d'air.
Oui, une grosse bouffée d'air. Et ensuite, il y avait quand même une capacité de... Enfin, l'arbitrage était là, maintenant on savait ce qui se passait. Et ça s'est assez vite normalisé, mais assez doucement. Enfin, la phrase un peu contradictoire, mais ça s'est vite normalisé, mais de façon assez linéaire finalement, par rapport à
ce que c'était.
À ce que c'était. Comment ça s'est fini pour Porsche et Volkswagen ? Donc, Porsche avait des situations de levier qui étaient absolument incroyables. Ce qui est bien avec une option, quand on en fait sagement, quand on va en faire une ou deux, c'est qu'on n'a pas à payer tout de suite. Donc on a le droit d'acheter dans 3 mois, par exemple, une action avec un prix déterminé. Et on peut acheter autant d'options qu'on veut comme ça.
Même si on n'a pas l'argent.
Même si on ne donne pas l'argent. Donc il y a des appels de marge. Donc à chaque fois que le prix bouge, il faut payer la différence. Ouais. Mais si en un jour, si je veux acheter 1 milliard d'options, je vais dépenser 0 euro pour le premier jour.
Tant que ça bouge pas.
Tant que ça bouge pas. Et bon, ils prévoient des appels de marge dès le début, mais concrètement, c'est ça. Donc, Volkswagen avait pris énormément de leviers à ce moment-là. On est quand même en octobre 2008. Et donc tout baissait. Normalement, c'était super d'être short. Ils étaient vraiment dégoûtés, les hedge funds qui ont fait ça. Parce qu'ils étaient short au moment où le marché s'écroule. Et en fait, ils ont la seule action du marché qui fait x3. Donc c'était horrible. Ils ont tout le reste de leur portefeuille. Souvent, on regarde un risque global. Donc on se dit, tiens, on est short Volkswagen. Donc en fait, on est short 20% action. Mais de l'autre côté, on peut être long 120%.
Ouais, bah là, il ne fallait pas être short.
Ils se sont fait deux fois massacrer. Mais Porsche s'est fait massacrer aussi à la fin de l'histoire parce que ses options, donc elle leur a donné une position trop importante et ils sont arrivés à ne pas avoir le cash pour payer toutes les actions qu'ils étaient censés payer. Donc ils se sont retrouvés à être en quasi-faillite et donc ils ont été voir toutes les banques, mais on est en 2008. Donc aucune banque n'a voulu leur prêter quoi que ce soit et ils se sont retrouvés en grande détresse avec plus de cash et c'était une catastrophe. La seule entreprise qui a bien voulu les aider, c'est là où l'ironie du sort est assez drôle, c'est Volkswagen. Donc c'est Volkswagen qui leur a prêté du cash à ce moment-là, qui a pris possession d'une partie de Porsche, et c'est un peu l'arroseur arrosé. Ils ont pris des risques et à la fin, c'est Volkswagen qu'on est sorti gagnant. Et quand on parle de Porsche qui prend des risques, c'est pas la première fois, leur service financier a toujours été vraiment un peu rock'n'roll. On peut parler, en 2007, par exemple, l'entreprise avant taxe fait 5,9 milliards de profits. Sur ces 5,9 milliards, il y a 3,6 milliards qui viennent du service financier.
Alors, mais c'est juste énorme, parce qu'il faut se rendre compte que normalement, leur activité principale, c'est la vente de voitures.
C'est de faire des voitures.
Et là, on voit qu'il y a plus de la moitié
qui vient de cette activité de banque et de finance.
À titre de comparaison, les autres constructeurs comme ça,
ça va être rien.
Je ne sais même pas d'ailleurs si ça existe chez les autres.
Ça va exister, mais par exemple, chez Renault, leur activité financière, ça va être de faire des prêts à des gens qui veulent acheter une voiture. Ouais. Donc là, le risque, il peut y avoir des défauts en cascade, mais ça n'a rien à voir avec des leviers qui sont incroyables. En
plus, voilà, plus de la moitié du CA. Quoi.
Plus de la moitié avec des risques qui étaient hallucinants. Quoi. C'est des risques qu'une banque pourrait ne pas prendre. Ouais. Donc il y a un mélange des genres qui était dingue et des conséquences qui étaient aussi incroyables.
Et depuis Volkswagen, qu'est-ce que ça a fait en bourse?
Alors depuis,
parce que donc, on était en 2008. Là, pas mal d'années plus tard, attends, 15 ans plus tard.
15 ans plus tard. Alors où est-ce qu'on en est? Bah, ça a été une grande réussite quand même pendant des années.
Les gens n'ont pas eu peur après d'acheter des Volkswagen?
Non, c'était plus Porsche en fait. C'était plus Porsche et c'est assez vite revenu dans la normale aussi.
Okay.
On aurait pu se dire, bon bah voilà, finalement c'est assez vite.
Oui, c'est ça, on aurait pu se dire, il y aurait pu avoir des séquelles durables par rapport à.
Non, mais oui, il y aurait pu, mais après Volkswagen a repris en main le groupe, etc. Donc finalement, ces deux groupes qui sont extrêmement imbriqués avec Volkswagen qui possède une partie de Porsche, le producteur de voitures, mais la branche financière de Porsche qui possède aussi une partie de Volkswagen et aussi une partie de Porsche qui fait des voitures. Donc c'est vraiment tout un mélange. Mais je pense que le problème principal aujourd'hui de Volkswagen, c'est plutôt l'arrivée de Tesla, où là, on a un leader du marché face à un disrupteur du marché. Et on pourrait se dire qu'avec toute la montagne de cash que Volkswagen avait, ils auraient pu rattraper leur retard sur l'électrique, sur le logiciel et même maintenant, peut-être sur la production industrielle. On avait parlé la dernière fois des gigapresses. C'est quelque chose qui, pour moi, aurait dû être fait par un acteur industriel traditionnel. Que Tesla vienne disrupter sur le logiciel, la conduite automatique, même l'électricité, aucun problème, mais qu'ils viennent aussi être le leader sur la production industrielle. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut reprocher à Volkswagen. Et donc c'est vraiment le combat pour qui va réussir à vendre des voitures électriques qui jouent en ce moment. Et ça c'est le plus gros challenge de Volkswagen.
On en parlait la dernière fois, c'est vrai que Tesla a une avance de dingue à tout point de vue sur ces histoires d'ingénierie, même d'industrie avec la Gigapress, même sur des histoires de prix des voitures, de marge sur la construction aussi. Enfin bref, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que toi, en bourse, tu serais acheteur de Volkswagen ou pas?
Bah, du coup, pour moi, l'avantage concurrentiel est sur Tesla. Donc, si je regarde le secteur automobile, je préférerais aller sur Tesla. Il y a aussi beaucoup de capitaux qui vont dans l'intelligence artificielle.
En plus,
Elon Musk est très proche de l'intelligence artificielle. Il était à la base du projet de ChatGPT. Il travaille de son côté aussi. Donc dans les voitures, ça va être vraiment capital pour la conduite autonome et même plein d'autres choses. Donc non, je préfère. Pour l'instant, tant que Volkswagen ne montre pas des signes de progression sur ses véhicules électriques, je préfère rester sur Tesla.
Donc toi, sur le secteur automobile, si tu as une valeur à acheter, pour toi, c'est Tesla.
Ouais,
voilà. Ok.
Clairement.
Bon, très clair, tu n'as pas changé depuis la dernière fois, mais merci beaucoup pour cette histoire sur Volkswagen, hein, que vous ne connaissiez peut-être pas, mais voilà, passionnant. Et tu penses aujourd'hui, tiens, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'un truc comme ça pourrait se reproduire, ou alors avec les nouvelles normes, etc., ce serait quand même compliqué, tu vois?
Bah, clairement, un truc comme ça, c'est un signe noir, donc avant que ça arrive, c'est impossible de l'imaginer. On ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir 50% d'actions d'une entreprise sans le dire à personne.
Ouais.
Mais après, on voit qu'il y a toujours des parties du marché où les acteurs du marché arrivent à trouver des idées saugrenues auxquelles personne n'aurait pensé. Et en étant dans l'excès, ils vont casser quelque chose qui marchait bien. Donc, le même scénario, c'est impossible. D'autres short squeeze, ça, c'est possible. Mais justement, c'est un peu dans ces ordres-là. Dans cette magnitude-là, je ne vois pas quelque chose de comme ça d'arriver. Mais pour moi, l'histoire sur le pétrole à moins 42, c'est aussi quelque chose que personne n'aurait cru possible et qui finalement est arrivé. Donc clairement, sur des short squeeze qui vont avoir des grosses conséquences, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler.
Bon, bah voilà, on aura peut-être d'autres surprises, entre guillemets, à venir sur les marchés. Merci beaucoup, Timothée Puvelier. Je rappelle que tu es responsable de la gestion obligataire internationale chez la Financière de la Cité. Merci d'avoir été avec nous, à très bientôt, et n'oubliez pas, posez-nous vos questions à BFM Bourse.